écoutez Radio FMR, nous sommes le dimanche 21 février 2010.
Oh merde, erreur de date. Rewind.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 20 février 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le défilé des dragons impériaux de la critique culturelle que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Oh non, non, en fait, ça... Oubliez, hein, je vous êtes encore fait piéger par le propos. C'est bien une encyclopédie de la bande dessinée érotique, mais c'est sur les textes qu'il faut se concentrer, pas franchement sur les images.
Radio FMR présente. Le supplément Wind. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Page et la participation exceptionnelle de JB.
Bah non. Et c'est pas faute d'avoir voulu changer le générique, mais la dernière fois qu'on a essayé, le type est parti avant d'enregistrer. Hein ? Non mais c'est pas bien. C'est vrai que je sais pas si la semaine dernière j'ai vraiment convaincu sur l'histoire de la bande dessinée pornographique.
Oh non, encore.
Oh non, bon d'accord, ok. De toute façon, c'est un supplément week-end numéro 228. Ce sera un petit peu raccourci parce qu'on est en pleine période des Jeux Olympiques et en plus il y a le Toulouse-Toulon tout à l'heure. Donc du sport va avoir l'heure complète tout à l'heure pour parler de sport, du moins j'espère. On aura aussi inversé un petit peu les sujets puisque du sport va parler de bande dessinée, moi je vais parler de télévision et Thomas va parler de cinéma.
Bon, ça change pas.
Ça change pas, ok. Et accessoirement, plein de choses évidemment aujourd'hui dans le supplément week-end. Enfin, on va réduire exceptionnellement. Vous allez voir qu'on va être un tout petit peu vintage. Tout à l'heure, on va parler de l'ère victorienne en deux étapes, aussi bien cinéma que BD. Mais en attendant, on a une star de la télévision et de la bande dessinée que nous avons interviewée. Il s'agit de Davy Mourier. C'est quelqu'un qu'on a déjà eu ici, puisqu'il est l'un des animateurs de la chaîne No Life. Et c'est vrai qu'on en parle très souvent dans cette émission. Et comme nous dit la direction générale de la radio, vraiment trop, faudrait qu'un jour on leur fasse payer le passage en tête. Bref, c'est quelqu'un... qui fait beaucoup de choses. Il est scénariste, acteur, réalisateur de la série Nerds. Il tient un blog qui est très suivi, qui fait partie du top 10 sur la plateforme Overblog, des blogs en termes de fréquentation. Donc il doit faire peut-être partie du top 200, je veux dire, des blogs les plus fréquentés. Non consacré à la cuisine, je tiens à le préciser. On l'avait déjà interviewé donc justement pour la sortie du coffret Nerds. Il présentait aussi une émission quotidienne qui s'appelle 101% sur la chaîne No Life. Il a fait plein de choses, mais No Life a des difficultés financières et Davy est parti volontairement voir ailleurs, tout simplement pour pouvoir aider la chaîne à s'en sortir un petit peu financièrement puisqu'il était salarié hein, mais pas bénévole dans notre comme nous dans notre radio. Donc il est parti un petit peu avec son équipe et il est allé voir sur notre chaîne. S'il fallait faire un résumé de tout ce que fait Davy là-dessus.
Davy, oui. Dessinateur, présentateur, scénariste, acteur, réalisateur. Et il va falloir faire un choix.
Je suis porn star aussi.
Ça, c'était l'extrait de l'interview qu'on avait déjà diffusé, donc qui avait été faite il y a 2 ans et demi. Hein, il y a 1 an et demi, pardon.
C'était pas la dernière Japan Expo, c'était celle d'avant. C'était celle d'avant. 2008.
Exactement. Donc, il est auteur, entre-temps, de bandes dessinées, puisqu'il a sorti plusieurs albums. Il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois, et Papa, Maman, une maladie et moi, qui est un double album... sorti, je ne sais plus chez quel éditeur d'ailleurs.
Chez Adali,
ouais. Ainsi que Moirf, journal intime d'un geek dépressif. Et il a une bande dessinée qui va arriver qui s'appelle 41 euros pour une poignée de psychotropes, qui reprend un peu les strips qu'il avait fait sur son blog, sur sa
psychanalyse. Psy, ouais.
Voilà. Et accessoirement, il fait aussi des bandes dessinées qu'il scénarise et qu'il signe pas d'ailleurs ouvertement dans le Psychopathe Illustré.
Sont dessinées par Melaka.
Entre autres, je crois qu'il y en a eu une autre depuis qu'il a scénarisé. Bref, Davy est quelqu'un qui était intéressant d'interviewer parce qu'on a eu des auteurs de BD hein, dans cette émission. Et moi-même, j'ai dû en faire une 200 à peu près hein, depuis 15 ans à cette antenne. On a eu des auteurs régulièrement, des chroniqueurs, des critiques, des auteurs d'ouvrages de critiques sur la bande dessinée qui sont venus à cette antenne. Ou des collègues directs, hein, d'ailleurs, directs et indirects. Mais on n'a pas eu quelqu'un qui faisait les deux. C'est-à-dire qui a à la fois une carrière d'auteur, de bande dessinée, et une carrière de critique de bande dessinée. C'était trop tentant d'interviewer quelqu'un qui est à la fois juge et partie, auteur et critique BD. Et ben, c'est une interview double jeu, bien sûr. Road Strip, je tiens à le signaler, il est midi et 6 minutes sur FMR pour ceux qui nous écoutent en direct, et diffusé en ce moment en direct, non pas en direct, mais c'est la première diffusion en ce moment depuis samedi midi sur la chaîne Gong, un programme qui dure une demi-heure, sauf que Gong est une chaîne cryptée, donc une chaîne à péage, mais Davy a annoncé hier, il a fait un petit coucou hier sur la chaîne No Life, il a annoncé hier aussi aux professionnels, ce sera disponible 15 jours après sur son site web, badstrip.net. Il y a déjà eu une diffusion du premier nouveau Road Strip, celui qui concerne le festival d'Angoulême qui a été faite. C'est pas encore sur son site, mais néanmoins vous pouvez retrouver le lien en allant sur supplementweekend.fr. Vous allez en haut à droite, vous allez sur le lien nos chroniques, il y a marqué Road Strip, vous cliquez dessus, il y aura le lien vers la première émission et donc vers ces nouvelles émissions quand il les mettra en ligne au fur et à mesure. Bref, voilà. Donc, Davy, on l'a interviewé entre la poire et le fromage lors du festival d'Angoulême, puisque, évidemment, il a fait énormément de choses en même temps. Il nous a dit qu'il a enregistré, je crois, une douzaine d'émissions pendant le festival. Il était un peu route, il était chaud. En même temps, il faisait les 24 heures de la bande dessinée.
Juste avant, il avait fait, oui.
Et je crois même
en plus il a triché, il a pas fait 24 heures, il a fait 11 heures.
Ouais, mais je crois que c'est la même chose aussi pour Lewis Trondheim. Tu le verras dans son interview. Et accessoirement, plein d'autres choses.
Oui, alors on n'a pas interviewé.
Oui, je sais, je bafoue, merci.
On n'a pas interviewé que Davy, il y avait Rémi Argot qui est son cadreur aussi, qui a participé à l'interview.
Et plein d'autres choses. Et Philippe Pité qui nous écoute à Porto sur le stream, c'est sympa, merci Kinou. Donc toi aussi tu vas pouvoir le regarder en différé sur son site web. Donc Davy, c'était intéressant de l'interviewer. C'est vrai que c'est quelqu'un dont on parle souvent dans cette émission et un peu trop. Mais néanmoins, ben voilà, on a voulu l'interviewer, c'est entre la poire et le fromage, il y a beaucoup de bruit à la prise de son, je suis vraiment désolé, ça a été encore plus chaotique l'interview qu'on a passée il y a 15 jours, mais c'était très intéressant de ce côté-là, justement, de savoir ce qu'il devenait, l'interview que l'on a faite à Angoulême. Davy.
Oui, comment le regard noir de Didier la dernière fois
J'ai dit Davy.
Tu m'appelles comme si j'étais encore en Ardèche. Davy, bon Davy, bon tableau Davy.
Ça tombe vraiment les enfants.
Davy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Donc tu es venu mais accompagné. Première chose, puisque on va replacer le contexte de cette interview, je tiens à te féliciter parce que bravo, t'as réussi à montrer que No Life est une chaîne mature, puisque tu as réussi à en vendre un concept à une autre chaîne. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même une certaine place dans le PAF.
Alors je croyais que tu allais mature, tu vois, pour moi ça, c'est des vidéos sur internet avec des femmes d'un certain âge, et donc je ne comprenais pas ce que tu allais dire par rapport à No Life. Ouais, j'y avais pas pensé comme ça, effectivement. C'est la première émission qui s'exporte de No Life, c'est Road Strip, émission de BD. Mais elle avait une chance par rapport aux autres émissions de No Life, c'est qu'elle n'était pas totalement bête ou totalement trop spécialisé, quoi. Road Strip, c'était l'émission de BD, tout le monde pouvait être intéressé, tout le monde pouvait suivre, c'était pas trop bande dessinée, genre oui alors tu as pris tel auteur des années 1800 et tu as refait le truc, tu vois. C'est une rencontre, Road Strip, et donc une rencontre ça peut intéresser tout le monde. Donc effectivement, oui, c'est la première émission qui se vend, j'espère qu'il y en a d'autres qui se vendront, ou j'espère que Noël aura assez d'argent pour acheter des émissions.
On va rappeler aussi que tu es auteur de bande dessinée, aussi bien sur ton blog que dans des albums. Et là, à partir de là, il y a peut-être une question qui est un petit peu gênante, à savoir être auteur de BD et être critique. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un conflit d'intérêts?
Alors, surtout quand on dessine aussi mal que moi, c'est très compliqué. Moi, j'aime la bande dessinée. Voilà. Mais je fais pas des reportages de bande dessinée comme plein de reporters qui sont frustrés de pas être auteur de BD. Parce que j'en ai croisé, je ne citerai pas de nom, mais des mecs. Je ne vise personne. On n'a pas discuté si tu veux, mais il y a plein de mecs forcément qui sont journalistes parce qu'ils n'ont pas pu être auteur de BD. Journaliste BD bien sûr. Parce que je pense que pour avoir des revoirs, s'en fout. Des journalistes BD qui sont frustrés. Moi, bien sûr, je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé pouvoir dessiner comme Vatine, ou voilà. Mais non, c'est pas le cas. Mais je fais mes histoires, voilà, de mon côté. Et d'un autre côté, je rencontre des auteurs. Et pour moi, c'est un équilibre. J'ai besoin des deux, quoi. J'ai besoin de dire des choses en BD, même si c'est moche. J'ai besoin de dire des choses. Et j'ai besoin d'interviewer des gens.
Alors, tu casses le mythe du dessinateur solitaire. Tu vis avec ton cadreur.
Oui, c'est moi le cadreur en question.
Oui, je vis avec mon cadreur. Oui, mais alors, en tout bien tout honneur. Hein, je veux dire, on est confrères, on est colocataires, mais on n'est pas concubins, si tu veux. Même si à l'hôpital, quand il est allé passer des examens, quand ils m'ont demandé, ils ont écrit concubin.
Alors, tu fais de la vidéo et de la BD. Alors, je suis sûr que tu as déjà pensé à combiner les deux. Est-ce que tu as réfléchi déjà à des concepts et tu n'es pas obligé de répondre au roman photo?
Non, en fait, sur mon blog, pour l'anniversaire de mon blog, il y a un an ou deux, j'avais fait un truc où j'étais en vidéo et je parlais à mon personnage en bande dessinée et je lui disais « Je suis désolé de ne pas t'avoir dessiné depuis longtemps, mais en ce moment, je suis heureux, donc je n'ai pas besoin de dessiner. » Et lui disait « Alors c'est ça, alors je te sers uniquement quand t'as pas envie d'apparaître devant les gens. » Et c'était un dialogue entre mon bad moi, ça c'est pas moi, ça c'est le public qui a dit Bad Davy en fait, j'ai vu ça. C'est le public qui a trouvé comme nom pour mon personnage Bad Davy, donc c'était Davy qui parlait à Bad Davy. Mais effectivement, quand je dessine, plus il y a de dessins sur mon blog, moins je vais bien normalement.
Toi en tant qu'auteur, ton travail, tu préférais, quelle est ta vision, on en parle. Bon, en chronique... une fois à peu près tous les festivals d'Angoulême, une fois par mois, entre fromage et dessert, c'est-à-dire entre un passage d'Éric Besson et un zapping d'une télévision australienne quelconque. Ou en interview documentaire, avec passage sur France 5 une fois par an. Ou en analytique, façon Benoît Peters, DVD disponible dans le catalogue et à commander auprès de la librairie du musée. Ou en immersif, façon la bande à BD, mais on n'a pas pensé à l'enregistrer parce qu'à l'époque, avec les magnétoscopes, on enregistrait autre chose.
Il n'y a pas le web. T'as pas parlé du web. J'ai le droit de...
Je te parle de télé.
Je sais pas, franchement c'est trop dur, ça me fait chier d'être en fait dans les standards, donc tout ce que tu me proposes en fait quelque part c'est un peu des standards, donc forcément je prendrai le dernier.
Des standards qui ont disparu.
Ouais, à la limite ça serait plus le standard qui a disparu.
Parce que justement toi en tant qu'auteur tu trouverais ça intéressant qu'on anime tes dessins pour immerger justement le téléspectateur dans un album.
Je pense qu'il n'y a aucun avenir à la bande dessinée interactive et enfin... Je dis ça et on fait une émission de BD et des fois on met des planches, on les bouge pour pas emmerder les gens parce que forcément le statique à la télé ça ressort très mal, mais je vois pas l'intérêt de, comment dire, à part pour en parler rapidement, je vois vraiment pas l'intérêt là, alors là je pars peut-être sur un autre sujet, mais tu vois tout ce qui est nouvelle BD numérique, genre regarde des BD sur ton iPhone etc, ça va jamais marcher, je vois pas pourquoi ils se font chier. les mecs, il y a rien de mieux qu'un album BD avec des feuilles que tu peux tourner et même tu peux te couper des fois. Tu vois, il y a du danger. Tu vois. Et forcément, il y a du danger. Donc, tu préfères l'album BD. C'est une BD. On est arrivé, je crois, au bout du concept. Il y a un imprimeur. Il imprime des albums, toi t'achètes l'album et tu le lis dans ton lit, aux chiottes, ce que tu veux. Et c'est pas la peine de chercher un autre concept, c'est mort. Je crois que là on est arrivé au bout du truc, tu vois. Donc voilà, et après animer des BD, oui, il faut, à la télé on est obligé. Mais vu que moi, la BD m'intéresse, même si tu me montres une planche de Franquin qui bouge pas, bah, je vais trouver ça beau quand même. Hein. Voilà.
Alors on sait qui tourne une émission de BD, je suis dans la boutique de Daniel Maga maintenant.
Ton style de BD est vachement radical. Bah, c'est-à-dire.
Tu ne sais pas dessiner quoi.
Non, ça c'est toi qui l'as dit. Justement, comment tes BD ont-elles été reçues par les gens qui ne te connaissaient pas de No Life?
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que beaucoup d'acheteurs de mes BD sont des gens qui n'achètent pas de BD d'habitude. Ce qui est amusant, c'est qu'en séance de dédicace, première séance de dédicace de Nerds, il y a quelques années, des mecs qui viennent et qui me font « C'est le premier DVD que j'achète. » Tu fais « Ah, merci !» Tu vois, voilà. Alors, ou ils téléchargeaient tous les autres trucs, ou alors ils aiment que Nerds, tu vois. Et là, j'ai des mecs en séance de dédicace BD qui viennent et qui me font « C'est la première BD que j'achète. » Alors, je ne sais pas. Alors, peut-être, parce que, effectivement, j'ai dépucelé beaucoup de filles dans ma vie. Voilà, ça m'est arrivé. Voilà, j'ai un lourd passif de dépucelage. Eh bien, ça arrive encore avec des DVD et des bandes dessinées. J'intéresse un public qui n'est pas un public, je sais pas, habitué au festival. Ouais, voilà, c'est des gens qui regardent No Life ou qui regardent mon blog et qui aiment, je pense, le personnage. Enfin, voilà, et qui ont envie de picorer tout et qui achètent ça. Et je sais pas, j'ai eu quelques personnes, si, qui ont découvert la BD. Je sais, quelqu'un de la Fnac qui a découvert la BD comme ça par hasard et qui a aimé. Donc ça fait plaisir, mais c'est très rare en fait. C'est très rare. Je vis dans une niche fermée en fait. Mon univers est assez clos. Peut-être que les gens aiment ça aussi, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'autres gens. C'est pour ça que j'ai participé aux 24 heures de la BD cette année. C'est parce que ça me permettait de. Peut-être que des gens qui me connaissent pas vont dans la liste des auteurs. Attends, j'étais dans les auteurs pro. Attends. Attends. Bon, je sais pas si je le méritais, mais en tout cas j'y étais. Et les gens, ils vont cliquer tout ça. Et puis juste en dessous de Lewis Trondheim, ils vont peut-être taper dans mon truc, tu vois. Et donc je me dis, je vais peut-être toucher des gens. Alors, et c'est pour ça que je me suis quand même sorti les doigts du cul pour essayer de faire un scénario qui. Je voulais faire un truc bien, voilà. Après, est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas, mais voilà, j'attends des retours du public. En tout cas, sur mon blog, les gens ont aimé, mais bon, après, les gens qui viennent sur ton blog, c'est un peu facile de dire.
Au moins, on sait qu'il y a une mesure d'audience exacte que tu fais grâce à la vente de tes albums BD, c'est le seul intérêt. Pour en revenir à ta casquette de critique, oui, je sais, j'en change à la volée, ça risque d'emporter quelques cheveux. Le fait de devenir critique, t'a-t-il incité à lire des archis classiques?
Alors déjà, j'évite de perdre des cheveux car ils m'ont coûté très cher. Pourtant, je les rase. Ensuite, est-ce que j'ai lu des classiques? Ouais. En fait, moi, le truc que j'avais pas lu, ouais. Bah là, par exemple, j'interview Fred à Angoulême. J'avais jamais lu un album de Fred de ma vie. Et pourtant, je connais hein, Philémon, je connais, je vois le graphisme, je sais ce qu'il fait, tu vois. Mais j'avais jamais lu. Et je dois l'avouer que le style ne m'attirait pas, en fait, tout simplement. Mais bon, je dois avouer un truc, hein, c'est que Larsenet, dans Flux Glacial, quand j'étais plus jeune, je sautais les pages. Je ne lisais pas les histoires de Larsenet. Je disais que c'était très mal dessiné et je ne lisais pas.
Eh oui, ben c'est ça. Merci. Il va encore dire du mal des journalistes. Non, on n'a pas gagné.
Et je ne lisais pas. Et un jour, je sais pas, il y avait un truc genre Conan le Barbare ou voilà. Et je me suis dit, tiens, Conan le Barbare. Et j'ai lu Larsenet. Et j'ai compris. Et j'ai compris que ce mec était un dieu. J'ai compris que le style de dessin qu'il amenait, c'est juste j'aimais pas parce que c'était différent, tout simplement. Et qu'en fait, c'était un génie dans le minimalisme, dans le voilà. Et là, ça m'a ouvert des portes hallucinantes. Ça m'a ouvert des portes vers Lewis Trondheim, vers tous les donjons, vers toutes ces choses-là. Et Fred, tu vois, c'était juste de l'ignorance parce que j'ai lu le Korbach au basket qui a eu un prix, etc. En fait, putain, moi qui fais une bande dessinée là, qui va sortir sur la dépression, il y a un mec qui va voir un psy. Et là, je me dis, merde, en fait, quelqu'un l'avait fait avant, bien avant moi, quand même. Et avec talent, quoi. Et voilà. Et donc, oui, je grâce à l'émission de BD, mais c'est ça, un road trip aussi, c'est pour m'obliger à découvrir des choses en plus, tu vois.
Alors justement, parce qu'en fait, j'allais te demander de citer, est-ce que tu as lu des auteurs, des débuts, allez, on va dire avant les albums, c'est-à-dire avant 1946, justement par le fait que tu te retrouves à faire road trip?
Non, non, je crois pas, j'ai pas eu, parce que si tu veux quand même, vu que road trip, c'est une émission sur la BD, mais c'est surtout des rencontres d'auteurs. Donc, je vais avoir beaucoup plus de mal à lire des auteurs morts que des auteurs vivants, puisque je vais avoir du mal à interviewer un mec mort. Voilà. Alors, non pas que je n'ai pas envie de lire des auteurs classiques, mais j'ai pas beaucoup de temps en préparant les émissions, donc je me concentre sur les nouveautés, parce que je suis obligé de voir ce qui va... Par exemple, Guillaume Bianco, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire son trou de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et je suis très content de l'avoir découvert il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va monter, donc je lis les nouveautés pour ça. Et je suis content aussi de découvrir Fred, voilà. Et donc, j'ai pas trop répondu à ta question, mais...
Alors, le fait de devenir critique, t'a-t-il incité à lire des ouvrages d'analyse?
Alors, je... Ça sert à quoi?
En plus, on a parlé d'un sur ton blog. C'est un auteur américain.
Scott McCloud? Ouais, non, mais c'est pas pareil. Scott McCloud, c'est pas pareil. Scott McCloud, c'est de l'analyse de la BD, mais pour apprendre aux gens à faire de la bande dessinée. Moi, ce que j'ai cru que tu me demandais, c'est des bouquins qui apprenaient à faire de la critique de bande dessinée.
Aussi.
Parce qu'il y en a. Mmh. Et alors là, je vois pas l'intérêt. Là, je ne vois pas l'intérêt parce que. Moi, je suis pas. Alors, on m'a dit à Angoulême, là, les gens du festival qui m'ont accrédité, ils m'ont dit non, mais de toute façon, là, on te connaît maintenant, t'es un journaliste qu'on connaît. Et là, je me suis dit, je suis pas journaliste. Après, je me suis dit, ah ouais, aussi, on peut dire que je suis journaliste, ouais, voilà. Mais je suis pas. Mais... Moi, quand j'étais en école d'art, le truc que je détestais, et pourtant j'avais des bonnes notes, c'était histoire de l'art. Parce que quand on me disait, il fallait que je décrive ce que je voyais dans un tableau. Je racontais de la merde. Tu vois ? Je racontais de la merde. Parce que je peux pas savoir ce que le mec il voulait dire. Je peux pas. Donc j'inventais des trucs. Et là, la prof, elle me mettait 16. Ma première, j'ai eu 18 sur 20. Et en fait, c'est n'importe quoi.
En fait, l'astuce en histoire de l'art, c'est. Enfin, en analyse d'œuvres d'art en général, c'est tout rapporté au sexe. Ça marche à tous les coups.
Ah ouais, ouais, mais là, j'avais du mal à tout rapporter au sexe parce que c'était. C'était quoi? C'était le truc qu'il y a sur les billets de 100 francs. C'était de la croix. Bon, elle a le nichon à l'air et un drapeau, tu vois, mais bon, le sexe, là, j'ai du mal à moins qu'elle se gode avec le drapeau. Mais bon, bref.
Je vais finir.
Attends, je vais finir. Non, le truc qu'il y a, c'est que pour moi, j'ai pas de référence. J'ai pas vraiment de référence. Tu vois, moi j'adore les comics, mais je connais pas les noms des mecs. Je connais les histoires. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui arrive à Spider-Man, à Tante May et tout ça, mais je sais pas qu'en 1980, c'est Claremont, machin, tu vois, tout ça. Je sais pas, je m'en fous. Pas que je m'en fous, mais. Mais moi, c'est la BD qui m'intéresse, tu vois. Alors après, quand je rencontre un auteur, je suis hyper content de rencontrer l'auteur, parce que c'est lui qui a fait cette œuvre d'art, tu vois. Donc j'ai envie de lui parler, je lui pose des questions, mais c'est d'avoir lu l'album qui me donne la passion d'interviewer le mec. Et à part lire l'album, je vois pas ce qu'il y a de plus à faire pour interviewer quelqu'un. Je vais pas aller dire, ah oui, alors ton dessin, ça veut dire que t'as envie de baiser de ta mère, c'est ça. Tu vois, c'est ridicule. Donc voilà, non...
Le fait de devenir critique t'a-t-il incité à lire des merdes?
Bah oui, pour pas en parler.
D'accord. Tu as ta fiche sur la Wikipédia, mais pas forcément les auteurs que tu interviews. A, c'est frustrant. B, c'est toi qui l'as créé. C, c'est toi qui la supprime. D, c'est bien fait pour eux.
À savoir qu'on m'a dit plusieurs fois, je sais plus qui, mais on m'a dit ah ouais, tu t'es fait ta fiche Wikipédia. Et alors, j'ai fait. Alors, effectivement, je suis un peu égocentrique. Ouais, je dois avoir des tendances, tu vois. Voilà. Mais alors, de là à créer ma page Wikipédia moi-même, je pense que vraiment, ça serait malheureux. je serais vraiment quelqu'un de très très malheureux. Donc non, ce n'est pas moi. Je pense que c'est des gens qui regardent nos lives qui ont créé ma page Wikipédia. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle a été mise à jour dernièrement. Même quand j'ai fait croire à ma mort, il y a quelqu'un qui a dit que j'avais été tué par un métro et j'ai beaucoup ri. Moi, je trouve ça cool. C'est vrai qu'il y a des gens qui, des auteurs que j'ai interviewés qui sont pas sur Wikipédia. C'est tout simplement, c'est parce que je suis né sur le web. Et le web me le rend bien, on va dire. Si je suis sur Wikipédia, c'est juste parce que tout mon public, c'est des gens qui passent leur temps sur MSN, qui passent leur temps sur Facebook. C'est presque logique que les mecs, le truc qu'ils se sont dit en premier, c'est... Tu vois, il y a plein de gens que j'ai interviewés qui sont dans le dico et qui sont peut-être pas dans Wikipédia, tu vois. Bah voilà, moi je suis dans Wikipédia parce que je viens de là, parce que ça fait 10 ans que je squatte le web et forcément, il y avait bien un taré qui lit mon blog, qui s'est dit, je vais faire sa page avec une photo horrible. Où j'ai l'impression que je suis un lover de mes couilles sur un mur jaune. Voilà.
Bon, ok, je demanderai à Patrick Gomer qui est en train de faire une nouvelle édition, un dictionnaire de Larousse de la BD, de t'y mettre. Non, faut le mettre quand je
peux. Alors, une petite question pour la deuxième moitié de ton binôme inséparable pour Rémi. Quelle est ta part dans les sketchs et les émissions d'Evy, à part d'être le focus group pour ses blagues?
Ma part, ouais, c'est que. En général, quand il écrit un truc ou qu'il y a quelque chose qui est fait, il y a besoin d'un intervenant extérieur qui puisse tenir une caméra, qui puisse être l'élément qui... ça ne se résume pas qu'à ça, parce qu'après j'apporte des petites choses aussi dedans, mais en fait c'est surtout d'avoir besoin de quelqu'un qui puisse gérer cette partie-là.
Oui, c'est pas ça. Et avant, t'es aussi mon premier public à chaque fois.
Oui, effectivement, mais bon, après...
J'ai eu la blague, tu vois, j'ai lui fait « J'ai écrit un scénario avant qu'on filme, j'ai fait « Alors j'écris ça, c'est drôle ?» Ah, alors bon, il est gentil, alors d'habitude il me dit oui.
Ouais, mais j'ai peur d'avoir du mal à être objectif vu que je te connais depuis longtemps, donc c'est un peu simple pour moi de dire ah ouais, moi je trouve ça marrant, parce que moi ce que tu fais ça me fait rire, mais est-ce que enfin, c'est pas très objectif de ma part?
Bah ouais, mais bon, est-ce que je suis objectif aussi avec moi? Je crois pas, sinon je ferais rien, je montrerais pas ma bite, tu vois, par exemple, si j'étais objectif.
Ouais, mais c'est rigolo.
Bah non, pas pour tout le monde. Et le truc qu'il y a, c'est que Rémi, j'ai hyper confiance en lui en fait.
Pour la critique du montrage de bite alors.
Ouais, non mais je sais qu'il sait comment mettre en valeur les gags et je sais qu'il sait comment monter. Par exemple, si tu me montes pas en jump cut, bon moi j'ai moins besoin des jump cuts que Poulpe parce que moi j'arrive à faire des phrases complètes. Mais Rémi sait comment mettre du dynamisme et faire que je ne passe pas trop pour un con. Voilà, et en plus il amène des trucs en plus au montage. C'est quelqu'un, moi je suis un stressé qui, j'ai besoin de produire beaucoup. Rémi lui il est beaucoup, bah, voilà, tu vois, moi je parle, lui il parle pas, et le truc c'est que lui il va prendre son temps au montage, il va prendre son temps à mettre des effets, tout ça. Moi je vais faire bon allez on fait une autre émission parce que là on a pas le temps tout ça, et lui il va faire non mais il faut que ça soit bien, tu vois, et je fais oui ça va être bien, mais tu vois moi je veux passer à autre chose, voilà, comme les 24 heures de la BD, je les ai fait en 11 heures, tu vois, voilà. Et lui, les 24 heures de la BD, il les fera en 48 heures. c'est la différence. Mais c'est un truc qui fonctionne, quoi.
Est-ce que maintenant que tu es à la fois auteur et critique, ta propre attachée de presse, elle te tanne pas le cuir pour que tu interviewes un autre de ses clients?
J'ai encore du mal à recevoir des bandes dessinées, je les achète encore moi-même. Donc crois-moi, on n'est pas au point où les attachés de presse m'appellent en disant « Hey, interview telle personne !» Non, non, faut que je démarche, faut que j'aille voir, etc. Il y en a même qui me répondent pas. Il y en a, je suis obligé de passer par les auteurs. C'est l'auteur qui réclame l'interview. C'est pas parce qu'on a une émission de BD. Mais je pense que justement, c'est trop route. Tu vois, on est deux, on fait tout. Et les gens, ils se disent c'est des branlots, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc, genre encore une émission sur le web, voilà, rien à foutre, ils veulent des BD gratuites, et puis voilà. Le mec, voilà, il a des implants, il les rase, il est complètement débile, tu vois. Bref, non, je sais pas, on n'est pas, je pense que des grosses émissions comme il y a sur la chaîne parlementaire, il y a une meuf qui est payée, une stagiaire qui doit pas payer d'ailleurs, une stagiaire qui doit appeler et tout ça, machin, et ça fait tout de suite plus sérieux, tu vois.
Non, mais c'est la chaîne Sénat, alors, Jardin du Luxembourg, pas de problème, je vous envoie un tel. Voilà.
Tandis que nous, on va chez les auteurs parce qu'on n'a pas de plateau. Et puis c'est mieux avoir un plateau, c'est tout de suite plus chiant, t'es tout de suite plus carré, t'es obligé d'être assis, de sourire et de poser des questions cons, donc c'est bête.
David, Rémi, merci beaucoup.
Ah, Rémi, hein, égal à lui-même.
David Morier et son cadreur Rémi, j'oublie le nom. Argo, voilà, que l'on a interviewé lors du dernier festival d'Angoulême. Donc tous les deux produisent, réalisent et présentent les chroniques dans l'émission What's Trip, qui vient de se terminer sur dans la diffusion du numéro de cette semaine, vient de se terminer sur la chaîne Gong, et qu'on peut retrouver sur le blog de Davy, qui est donc badstrip.net. Et si vous vous souvenez pas du nom exact, vous allez dans le supplément weekend.fr, vous tapez nos chroniques et là il y a le lien vers Whatstrip.
Supplément weekend.fr et pas le supplément weekend.fr.
oui, c'est vrai, pardon, ok, d'accord, j'ai compris, merci. C'est la dernière fois que je réponds aussi aux SMS qu'on m'envoie des gens qui nous écoutent en direct, parce que là je suis inondé en même temps.
Ouais, parce que bon, répondre aux SMS en direct et tout et donner des fausses URL, tu vas être viré, attention, t'es sur la sellette, hein.
Oui, je sais, là on me fait signe qu'il est midi et 31 minutes et que là c'est l'heure de la pub.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport, il dit que des méchancetés.
Try to remember when life was so tender and happy.
FMR 89.1 MHz.
Du sport qui sera à partir de 13h sur la partie sportive. Voilà, c'était l'autre pub que je voulais passer de Duce. Je me suis trompé, hein. Ça arrive, mais de suite, eh ben, il a de la bédoche, hein. Alors, je sais pas, si tu peux commencer par Z-Boys, ça m'arrangerait d'ailleurs.
Z-Boys, mais comment ils prononcent ?
À l'ardéchoise !
Z-Boys.
Alors,
Bah oui, bah moi j'attendais que ça !
Alors, je te signale que pour les autres, on avait fait toute une préparation avec musique, et puis je lisais toujours le quatrième de couverture, tu sais, pour présenter, pour éviter.
Et moi, j'essaie d'éviter les quatrièmes de couverture ou les faire part d'attaché de presse.
C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose.
Bien sûr.
Ça,
bien
là,
sûr.
La première partie, c'est tout le temps la même chose.
Des fois, il y a des erreurs, des fois, il y a des trucs où, des fois, t'as pas envie d'annoncer certains trucs dans ta chronique pour laisser le plaisir au lecteur. C'est agaçant.
Voilà. Alors, on en est au numéro 5. Alors, le constat est que.
Il y a plus boudin d'amour, c'est ça?
Comment ?
Il n'y a plus boudin d'amour ?
Ah bah non, mais il était juste dans le 3, hein, c'est tout. Hein. Mais il y a des petites allusions de temps en temps quand même. Le 5, alors, il est un petit peu différent des 4 autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a vachement moins d'action. Et qu'on peut résumer en fait ce tome 5 qui s'appelle...
Je me suis trompé, j'ai un problème de son.
Ah non, ouais. Mais là, il les accumule, hein, c'est...
Ouais, non, mais bon...
La fin de l'émission, il garde tout...
Dans le tome 5, donc, de The Boys, de Garth Ennis, bien sûr, et d'Aric Robertson, s'appelle Je vais pas te mentir, soldat, et se résume, en fait, à deux dialogues. Un dialogue entre Petit Yugi et La Légende, et un autre dialogue entre Butcher, Billy Butcher... Et le patron des 7, c'est-à-dire le groupe de super-héros qui sont sponsorisés par Vote American et qui sont les meilleurs super-héros du monde, mais qui sont également, bon, on va dire, c'est eux qui font
Borderline.
Borderline, c'est eux qui font la tournante
avec la blonde,
avec Stella, mais qui fait partie du groupe maintenant. Hein, ça y est, ok, il n'y a pas de problème.
Bon. Hein, accepté, tu m'étonnes avec un bizutage pareil.
Ouais. Mais c'est pas fini. Parce qu'on peut dire que, à part les deux dialogues qu'il y a.
Excusez-moi,
donc,
la régie finale, si est... on peut préparer les macarons, moins 12, moins 18 et moins 24, parce que là.
Et qui est en fait un espèce de récapitulatif et qui va servir à poser les bases de tout ce qui s'est passé avant. D'où viennent les super-héros de Vote American ? Qu'est-ce que Vote American ? Comment cette société a-t-elle commencé ? Comment s'est-elle insérée dans le monde politique ? Comment a-t-elle pu lobbyiser à ce point les hautes instances gouvernementales, à savoir surtout Vic le Vice-Pré, hein, et un petit peu moins quoi le président Dakota Bob. Mais en fait, Dakota Bob, on en parle à peine, parce que bon bah lui, il est président, donc il est tout en haut, il se fout du reste, rien à foutre. Donc ça explique un petit peu, dans surtout la partie hein, entre La Légende, c'est-à-dire le type qui fait les comic books, qui est dans son magasin de comics, le petit vieux là avec les lunettes et tout, qui sait tout, en fait, et qui va expliquer à Petit Yugi de quoi il en ressort, et qui va un petit peu indiquer à Petit Yugi ce que petit Yugi va devoir faire. Donc ça veut dire que c'est pas le dernier, c'est cool. Pour ça, oui, c'est vraiment cool. Dans l'autre partie, eh bien, l'autre dialogue, eh bien, c'est le face-à-face donc entre Billy Butcher et le chef suprême des sept, et chef suprême qui, très hautain, qui demande pourquoi Billy Butcher lui en veut tant. Et bon, bah, le dialogue dure comme ça pendant des pages et des pages. Et l'autre, Billy Butcher, c'est même pas un dialogue, c'est pratiquement un monologue, hein, parce que Billy Butcher, il se contente juste de faire la gueule et tout, et de temps en temps de sortir une interjection, et c'est que dalle. Et l'autre fait un monologue où il fait pratiquement question-réponse. Bah, à chaque fois, il se plante ou il est pas bon et tout, quoi. Et
ça fait plaisir que je suis pas seul.
Et il y a un dénouement qui est assez sympa parce que, je vais pas vous le raconter, quoi. Mais bon, qui montre bien l'estime que Billy Butcher porte à ce genre de personnage. On sait pas encore exactement quel est le grief exact que porte Billy Butcher aux super-héros en général, hein, on va dire.
Mais on sent qu'il y a un passif.
Mais il y a un passif très, très, très lourd. Ajoutons à ça que la scène se déroule sur le pont de Brooklyn. Alors, comme l'histoire a été un petit peu modifiée, ce ne sont pas les Twin Towers qui ont été descendus, mais il est quand même question d'un certain 11 septembre, mais qui a détruit le pont de Brooklyn.
Ah.
Hein? Parce que, en principe, il y aurait dû y avoir les Twin Towers et le Pentagone, mais que les avions ont été un peu détournés, on va dire, hein, les avions piratés quoi par les terroristes.
Ont été redétournés, quoi.
Ont été un petit peu détournés, on va dire. Hein, mais ça, il faut le découvrir quand même. C'est très très bien expliqué donc dans cet excellent volume 5, tome 5 de The Boys, Garth Ennis au scénario, Darick Robertson au dessin. C'est toujours magnifique, c'est top moumoute. Et c'est toujours réservé à un public très 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 averti, hein, quand même, parce que il y a quand même des trucs assez trash, faut bien le dire, hein, que ce soit en violence ou en sexe,
en c'est vraiment violence des mots, le poids des images,
ça va quoi, ça chauffe bien, hein. Et c'est marrant parce que au niveau scène de cul, il y a uniquement deux nanas, c'est-à-dire il y a Suzanne Reiner, la directrice du CIA, qui embauche Billy Butcher.
Qui fait promotion canapé.
Promotion canapé, tout le bordel. Non, pas par derrière, s'il te plaît.
S'il te
plaît. Et Stella, donc, hein, qui, après son dépucelage buccal, est en train de commencer à vivre une histoire d'amour. Elle est en train de vivre une histoire d'amour avec petit Yugi. Va-t-elle avoir des suites?
Est-ce qu'on lui a offert un calendrier finalement?
Non, mais l'affaire revient sur le tapis. Hein.
D'accord.
Il n'y a pas de problème. Hein. Et tu remarqueras que comme on parle justement de ces deux des deux héros là, Billy Butcher et petit Yugi, ça veut dire que les autres, la crème, le français, la fille, sont un petit peu en retrait, mais il ne faut pas louper l'une des dernières pages du bouquin, parce que tu seras très content, Thomas, parce que le français regarde la télé, et qu'est-ce qu'il regarde?
Du foot.
Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a comme habit?
Bah, si tu en parles, ça doit être
le maillot de l'équipe de France, dans The Boys, les gars. Voilà. Champion du monde. Dans le temps, quoi.
On me fait signe que dans les super-héros, Hulk a été suspendu 4 mois.
Ouais, 4 mois, ouais. Pour une baston, ainsi que le...
Oui, je tiens à préciser qu'on parle de foot et que c'est le FC Porto.
Ainsi que le défenseur roumain, ils se sont fightés, quoi, en décembre, lors d'un match de la Ligue des Champions, et puis quoi.
Il était pas content.
Non, mais, en fait, c'est pas mal, parce que ça veut dire que Hulk va pouvoir se préserver. Et
on peut parler de sport pendant ta partie, comme ça t'auras vraiment l'heure.
On parle de comics là.
Ouais. Et on parle de Hulk. Et que donc, sa valeur marchande, à mon avis, va vachement grimper. Tu vois? Déjà qu'il était convoité par pas mal de grands clubs européens, là, je pense que c'est une bonne affaire pour lui, à mon avis.
C'est pas mal ça, pour parler de foot sous le couvert de Hulk. On tentera la prochaine fois aussi.
Tout à fait. Alors, autre BD, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires Century. Parce que, en fait, c'est une série dérivée, on va dire. Hein. C'est un spin-off par rapport
à... vraiment une spin-off, c'est une suite après, puisque certains personnages
se retrouvent. Oui, c'est-à-dire que dans le temps, ça se situe après.
C'est pas parallèle, c'est bien après.
Oui, c'est après, hein, ça se situe en 1910. Hein, donc, on sait que la Ligue des Gentlemen est plutôt située à la fin du 19e siècle. Là, on est au début du 20e siècle. Et des personnages qu'on connaît, il ne reste que, on va dire... le Capitaine Nemo, je vais pas vous révéler ce qui lui arrive durant cet épisode, mais c'est plutôt la fille du Capitaine Nemo, d'un côté, et le fils d'Alan Quaterman, donc déjà présent dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui sont les héros, on va dire, les personnages principaux de ce premier tome de 1910. Alors comme d'habitude, hein, c'est d'Alan Moore et de Kevin O'Neill, c'est-à-dire les mêmes, hein, avec le même encreur d'ailleurs que dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je parle bien de la BD, pas du film, attention, hein, pas du truc là, hein,
le truc,
le machin là. Hein. Et bon, bah comme d'habitude, hein, j'allais dire, ça devient chiant et lassant de dire que c'est terrible, que ça te laisse sur le cul.
Mais t'es à court de superlatifs.
Ouais, non, mais c'est ça quoi. Et bon, par contre, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que bon, bah on remarque quelques caractéristiques de chez Alan Moore, quelques gimmicks qui reviennent à notre temps. C'est-à-dire, il y a encore des pirates. on se demande ce qu'ils viennent foutre là. Mais bon, ok.
On va peut-être un peu mieux expliquer. The League of Gentlemen, Extraordinary Gentlemen, c'est une espèce, ce qu'on appelle dans le monde du comics mainstream, un crossover, c'est-à-dire quand on réunit Superman, Batman, Wonder Woman et tout ça, qui font la Justice League of America. Là, c'est la même chose, mais avec les héros de la littérature du 19e siècle, c'est-à-dire que c'est vraiment du steampunk pur et dur, oui, c'est-à-dire avec des engins à vapeur.
Avec des héros, mais également avec une araignée des mécanique. Anti-héros. Hein, parce que bon, bah, y a, dans la Ligue des Gentlemen, il y a quand même Mr. Hyde, il y a Moriarty, enfin bon, il y a les bad guys aussi, il n'y a pas que les good guys, hein, c'est ça qui est intéressant. Et alors, ce qui est assez remarquable dans...
C'est le réalisateur du film.
Ce qui est assez remarquable dans ce 1910, hein, Century, c'est l'utilisation que Alan Moore va faire de la musique et de l'opéra. Un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait dans V pour Vendetta, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il y avait tout un passage...
Toutes ces BD, tu as des références musicales très poussées.
Oui, non, mais où là,
même les BD qu'ils faisaient pour.
T'as plus de dialogue. En fait, c'est la chanson, hein, qui va rythmer le fil de la bande dessinée, le fil des cases et tout, pendant plusieurs pages, quoi. Et ça, pendant tout le long du bouquin. Et là, bon, bah, c'est du haut de gamme, comme d'habitude, hein. Alan Moore, c'est quand même pas n'importe qui. Et là, il nous choisit l'opéra de Katsu de Brecht et Weill. Donc, ok, merci les gars, rien à dire, passez votre chemin, et puis ça marche, quoi, il n'y a pas de problème. Et c'est un petit peu plus simple que dans la Ligue des Gentlemen, enfin ça dépend de l'édition que vous avez, hein, mais enfin bon, si vous avez l'édition complète et tout, vous savez, il y a le truc à colorier, le jeu de loi à la fin, tous ces trucs-là, là c'est bon, bah quand même, une BD dans un format un petit peu plus classique. Et moi, ce que j'ai vachement apprécié, par contre, hein, c'est la première page, juste avant le début de la BD, où il y a une espèce d'illustration qui représente Alan Moore et Kevin O'Neill, mais à la manière des gravures du 19e siècle, hein, c'est-à-dire des caricatures du 19e siècle.
Donc Alan Moore, c'est le barbu, hein.
Bah oui, de toute façon. Mais alors là, je sais pas si t'as remarqué, mais là, il a dessiné un chapeau assez classique, alors que d'habitude, c'est sa tronche, mais il se fout un haut de forme un petit peu bigarré, comme ça, quoi, du meilleur effet.
Est-ce qu'il a un serpent, quoi, il y a un serpent, des trucs comme ça?
Non. Là, non. Il a des fringues assez bizarre. Cubistes, quoi, on va dire, hein, une espèce de look, à ces arbres qui tranchent, enfin bon, bon pour les gens qui sont plus ou moins familiers du personnage du de l'auteur, bon bah c'est relativement classique. Bon, ok, que dire de plus, hein, foncez, achetez, ça vaut vraiment le coup, c'est
Est-ce
magnifique.
Est-ce qu'il faut avoir lu les précédents?
Pas forcément, non, mais justement c'est ça qui est intéressant, hein, c'est-à-dire que bon bah on reprend quelques trucs, c'est-à-dire que bon ben il y a l'allusion à Nemo, bon vous comprendrez quand vous commencerez à lire 1910, hein, mais c'est pas indispensable, hein, de toute façon il y a quelques références qui y sont mises, mais à part ça, quoi, ça va, on peut commencer par ça sans avoir lu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ça situe à une date un petit peu charnière, alors qui est vachement intéressante, c'est ça que Alan Moore aime bien, quoi, hein, c'est ces espèces de dates, ces espèces de moment où il y avait des événements
annonciateurs
de portée plus ou moins mondiale, hein, qui pouvaient faire changer la face du monde et tout. Alors là, on est en 1910, et c'est le passage de la comète de Halley.
Et c'est, une période aussi charnière aussi dans l'espionnage tout court, puisque Matahari, d'ailleurs, James Bond est censé commencer à ce moment-là et tout le reste.
Mais le groupe de personnages principaux, hein,
encore dont, Arsène Lupin,
dont fait partie le fils d'Alan Quatermain, Quatermain Junior, eh bien, c'est un groupe d'espions au service de la reine, hein, de toute façon, quoi. Avec Mina qui revient, d'ailleurs,
Mina Harker
qu'on voit à un moment dans la Ligue des Gentlemen, qui revient, qui est l'un des personnages principaux, hein, de toute façon, quoi. Un des personnages principaux, quoi, dans 1910. Enfin bon, bah, voilà, quoi. C'est même pas la peine d'en parler. De toute façon, acheter, ça vaut le coup. Qui prend? Qui prend?
Ah bah, moi, mais parce que Thomas, là, maintenant, il va faire le cinéma, puisque c'est la perche est toute rêvée. La perche tombe. Non, elle est tendue, la perche.
J'ai pas compris. On va pêcher à la perche.
Non, on va le chanter, le générique. Allez, hop. La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono 3D sur RAM.
Ah tiens, il y a la 3D aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un enquêteur, en fait. Donc, Sherlock Holmes. Donc, le film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, Rachel McAdams et la suite du casting dans du sport vous parlera juste après mon résumé du film. Alors, c'est la fin du 19e siècle. L'excentrique détective privé Sherlock Holmes, accompagné du docteur Watson, doit résoudre une série de meurtres impliquant Lord Blackwood, adepte de la magie noire. Mais après avoir été capturé par le duo d'enquêteurs, celui-ci ressuscite de son exécution et prend la tête d'une mystérieuse conspiration visant à prendre le contrôle des grandes puissances mondiales. Voilà, donc ça c'est le pitch du film. Dus, je te laisse parler du casting.
Déjà ça fait peur, hein.
Alors,
pas bien.
Alors, outre donc Robert Downey et Jude Law, eh bien, on a donc le grand méchant Lord Blackwood, hein. Lord Blackwood qui meurt à la fin du film parce que bon, bah ok.
D'accord. Et, bon, on n'aurait pas dû lui laisser.
Bah si. Bon, bah il meurt à la fin du film. Le décès est constaté par le professeur Dr Watson et tout. Mais bon, bah ok. Les choses n'étant pas ce qu'elles devraient être, il revient. Et puis bon, on
il
se
revient. Il est pas
comment. Il est pas mort. Bah si, mais quand même. Et Dr Watson, c'est pas n'importe qui. C'est un vrai médecin, hein, qui a fait ça dans les règles de l'art en plus. Hein. Bon, bah, avec les données de l'époque. Lord Blackwood, donc interprété par Mark Strong, qui est en fait un pseudo, hein, qu'il a choisi parce que Mark Strong a un père italien et une mère autrichienne, et il est né Giuseppe Salusolia. Si. Et après des études, il voulait être avocat et il fait quelques petites études d'art du côté de Munich. Il monte à Londres et c'est à Londres qu'il commence à étudier le théâtre. Et ça lui réussit relativement bien parce que il commence à avoir une carrière tout d'abord à la télé anglaise. Alors bon, à la télé anglaise, on le voit faire des apparitions dans des séries comme Morse, hein, en 90, un épisode réalisé d'ailleurs par Danny Boyle. Hein, la série avec John Toe, on le voit également dans Prime Suspect, c'est-à-dire Suspect numéro 1 avec Helen Mirren, où il interprète l'inspecteur Larry Hall dans un épisode en 93, c'est-à-dire l'un des premiers, et on le revoit 10 ans plus tard en 2003, c'est la seconde série des Prime Suspect, hein, et là l'inspecteur Larry Hall est passé inspecteur chef, c'est-à-dire est devenu le supérieur de Helen Mirren. On le voit également dans Kavanaugh, l'autre série avec John Toe, où John Toe joue le rôle d'un avocat, hein, un épisode d'ailleurs réalisé par Paul Greengrass, s'il vous plaît. Donc c'est pas mal, quoi. Ça vaut déjà son pesant de cacahuète. Mais un petit peu plus tard, bien en même temps pratiquement, il commence à faire également des apparitions au cinéma. On le voit d'ailleurs en 97 dans le Fever Pitch de David Evans, tu sais, avec Colin Firth, l'histoire de carton jaune en français, hein, l'histoire de ce supporter acharné d'Arsenal tiré d'un bouquin de Nick Hornsby qui foire une relation amoureuse parce que justement il ne pense qu'à ça, à Arsenal. Mais lui c'est un fan d'Arsenal quand Arsenal était une équipe de losers.
C'est le boring Arsenal.
Voilà, boring Arsenal. Et ben lui c'est un fan de ce boring Arsenal, donc le film pour la performance magnifique de Colin Firth, hein, de toute façon, là, excellent. Et donc, on a également Mark Strong qui joue un de ses potes. C'était en 97. Il est en 2001 dans Chunkai, le camp des survivants. 2003, It's All About Love de Thomas Vinterberg, un des mecs du
Dogma danois
de Lars von Trier. Il est également dans le Oliver Twist de Polanski en 2005 où il joue le rôle de Toby Crackit. Il est également dans le Guy Ritchie Revolver. Il est également dans Syriana avec George Clooney en 2005. On le voit dans Sunshine de Danny Boyle en 2007, dans Babylon AD de Kassovitz en 2008, dans Rock'n'Rolla de Guy Ritchie, encore lui, dans Mensonge d'État également. Et il sera prochainement à l'affiche du Kick-Ass, donc on va bientôt vous parler, je pense, hein, que ce soit la BD qui va bientôt sortir incessamment.
Donc pour ceux qui n'ont pas la couleur ou qui ont lompé le contre-champ, il y avait Thomas qui pinçait les lèvres du film. Oui, t'inquiète.
Dans le prochain film de Peter Weir qui s'appelle The Way Back, et également dans la prochaine mouture de Robin Hood, c'est-à-dire Robin des Bois.
De Ridley Scott.
De Ridley Scott, donc, où Russell Crowe joue le rôle de Robin des Bois, et lui, il va jouer le rôle de Keith Gisbourne. Donc, ça va, quoi. Ça va le faire quand même, quoi, dans le rôle des méchants. Il est assez sympa, Mark Strong, donc, qui interprète, donc, le méchant principal du film, Lord Blackwood. Eddie Marsan joue le rôle de Lestrade. Eddie Marsan, lui, on l'a vu dans Autopsie ou Affaires non classées, ça dépend. Quand ça passe sur TF1, ça s'appelle Affaires non classées, et quand ça passe sur Canal Jimmy, ça s'appelle Autopsie. Hein, une série anglaise qui commence à avoir de la bouteille quand même, vu qu'ils en sont déjà à la 12e saison. Hein, il reste encore un des personnages principaux de cette série. Du début d'ailleurs, hein, c'est William Gaminara. On le voit également dans Law and Order UK, c'est-à-dire
la version anglaise,
hein, et il est apparu également, il a des rôles dans des films assez conséquents, très divers d'ailleurs, dans le 21 grammes de Gonzalez
Inarritu,
dans Vera Drake en 2005, dans Amy 3, dans Mission Impossible 3, hein, il est également dans V pour Vendetta, on en parlait avant, dans Miami Vice de Michael Mann, dans Hancock avec Will Smith et dans Gangs of New York. À part ça, bon bah j'ai pas pu trouver autre chose sur Eddie Marsan qui quoi que vous fassiez IMDb, Wikipédia et tout, c'est vraiment limite. Miss Hudson est interprétée par Geraldine James, qu'on a pu voir dans des films aussi divers, parce qu'elle c'est plutôt une théâtreuse, on va dire, hein, dans le bon sens du terme. Dans Moll Flanders, dans La Défense Lougine, dans She's Been Away de Peter Hall en 89, où elle est sacrée meilleure interprète féminine à la Mostra de Venise de la même année. Hein. Donc ça va, elle a également
ouais,
de la bouteille.
Tranquille, oui.
Ouais, et il y a également encore Sir Thomas, donc un des personnages dans Sherlock Holmes, le film, qui meurt, on va le dire, hein, interprété par James Fox. James Fox, qui est le frère cadet d'Edward Fox, hein, c'est comme ça vous voyez à peu près qui c'est. James Fox, lui, il a quand même la bouteille parce que bon, bah, il est né en 1939 et dans une famille d'acteurs d'ailleurs. Et il commence en 62 avec La solitude du coureur de fond de Tony Richardson. Il fait ensuite l'année suivante The Servant de Joseph Losey, La poursuite impitoyable en 66 d'Arthur Penn, Performance de Nicolas Rogue en 68, joue rôle d'un tueur à gages qui se planque dans une superbe maison de Bourges en Angleterre, enfin à Londres, habitée par un chanteur de rock'n'roll entouré d'égéries très peu vêtues. Le chanteur est interprété par Mick Jagger, c'était son premier rôle à l'écran en 68, et Nick Rugg, c'est quand même le mec qui plus tard a fait L'homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie, hein, qui a fait d'autres films que j'ai pas noté. On le voit également James Fox dans Greystock, La légende de Tarzan, hein, avec notre Christophe Lambert national. Il est également dans Jeu de guerre de Philip Noyce. Et on le voit également dans Charlie et la chocolaterie. Hein, mais c'est une liste non exhaustive parce que bon, la liste est quand même vachement plus longue, hein, pour ce très très grand acteur, hein, du cinéma et du théâtre anglais, James Fox.
Eh ben, merci pour cette rubrique télé. Pardon.
Alors voilà.
Ah, t'avais pas commencé, d'accord.
Alors on reparle du film Sherlock Holmes. Alors justement, Xavier, tu disais que ça faisait peur un petit peu le pitch, et c'est vrai que la bande annonce également pouvait faire peur, puisque
Michael Bay explosionnesque.
Ça a donné la part belle un petit peu aux explosions et à la baston. On voit la bande annonce, t'avais l'impression que c'était que de la castagne. Et la castagne que tu vois dans la bande annonce, tu la vois dans le film, mais ce sont des combats qui, on va dire, déjà, qui sont pas le cœur du film, et qui sont à la fois désamorcés par l'humour, enfin à part celui qui se déroule dans la fosse où ça suinte vraiment la transpiration et tout, là c'est vraiment du Guy Ritchie pur, et par contre c'est amené avec la faculté de déduction de Sherlock Holmes, c'est-à-dire ce sont des combats qui sont vus à travers l'analyse des faiblesses de l'adversaire et mental.
Le mental qui sert justement à vaincre l'adversaire.
Et tu es dans la tête de Sherlock Holmes, dans sa réflexion, donc c'est ça qui est pas mal dedans, c'est pas juste des combats.
C'est le making of de l'enquête.
Voilà, donc c'est pas du tout Danny the Dog ou des combats au câble, là, c'est vraiment autre chose, donc ça c'est pas mal. Ensuite, le Sherlock Holmes, alors bon, c'est vrai que si tu t'attends dans l'imagerie d'Épinal des gens, donc c'est Sherlock Holmes, c'est élémentaire, c'est la pipe, l'espèce de petit truc, l'habit vert avec la casquette à carreaux, ce côté un petit peu ampoulé, c'est un petit peu Sherlock Holmes, mais il y a aussi l'autre côté de Sherlock Holmes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est anticonformiste, qui est facétieux, qui passe son temps à se shooter parce qu'il supporte pas l'inactivité, c'est un gars qui est super, qui est curieux de tout, mais donc du coup des fois il flirte un peu avec la loi, enfin il est un peu hors des sentiers battus, et c'est vrai que c'est ce côté là en fait qu'on voit dans le film. À partir du moment de façon où Guy Ritchie faisait appel à Robert Downey Jr, tu pouvais pas non plus lui demander de faire du super carré, du super sage, alors que là le Downey Jr c'est vraiment le Tony Stark, c'est à dire c'est le gars qui rien à foutre,
rock'n'roll.
Voilà, c'est quelqu'un qui va tester des produits sur son chien, enfin sur le chien de Watson, plutôt sur le chien de Watson, qui va manquer de flinguer les fiançailles de son acolyte. Enfin voilà, c'est vraiment
il met les pieds dans le plat.
On va dire que c'est la locomotive du duo, mais aussi le boulet. Et tiens, si je vous dis locomotive d'un duo avec un acolyte qui s'enquille l'espèce de l'autre, mais tu sens que mais pourquoi il est meilleur ami avec lui, qu'est-ce qu'il fait avec ce mec alors que lui il le traîne un peu dans la boue, il se moque ouvertement de lui.
Moi je vais penser immédiatement à Laurel et Hardy.
Oui, on peut penser aussi à Dr House avec Wilson. Ouais. Alors du sport, quand tu avais fait une large page à Sherlock Holmes la dernière fois, tu avais souligné la référence assumée de la série House Sherlock Holmes jusqu'à l'adresse de House qui rappelle un petit peu le 221B Baker Street. Donc voilà, c'est vraiment un duo qui rappelle un petit peu, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est House qui est vraiment cynique au possible, qui va se foutre ouvertement de la gueule de Wilson, et l'autre il s'attache parce que c'est son meilleur ami et tout. Et là c'est vrai que c'est un duo que tu retrouves dans le film de Ritchie, où Watson, c'est un gars qui est super sérieux et tout, qui va s'enquiller toutes les bourdes de son acolyte, il va se retrouver en prison, or il va devoir payer sa caution et tout, c'est pas un cadeau, hein, voilà. Mais après, c'est vrai que dans le film, ce qui a été reproché aussi à l'interprétation d'Odney Junior, c'est qu'il était en roue libre et qu'il en faisait des tonnes. En même temps, le personnage, de la façon dont il le joue, veut ça aussi. C'est-à-dire que quand tu vas voir Odney Junior dans un film ou dans une série, tu t'entends pas que ce soit du lampoulé. Hein. Voilà, c'est clair, c'est rock'n'roll. C'est vrai que avant de voir le film, tu t'attendais vraiment à du Sherlock Holmes, nouvelle version, c'est-à-dire pour les Jones, tu vois, qui sauve Castagne et tout, et finalement, t'aperçois que c'est assez fidèle. Et que cette partie de Holmes avait été un peu édulcorée ou passée outre dans beaucoup d'adaptations.
Tout à fait, oui, mais il faut. Ça remonte d'ailleurs à la première adaptation, à la première interprétation majeure de Sherlock Holmes par Basil Rathbone, qui a imposé en fait ce personnage avec un visage très fin, anguleux comme ça, et avec son accoutrement qui est passé à la postérité, alors que dans les livres effectivement on n'a pas de description exacte de l'habillement de Holmes. Il en change tout le temps, c'est un as du travestissement. Il peut rester comme on le voit un moment dans le film, il peut rester 15 jours planqué pour surveiller quelque chose, habillé en pecno, en mendiant crade, sans se laver et tout. Holmes Holmes, vous puez, voyons. Enfin bon, ça, on le retrouve dans les livres. Et dans un certain sens, on peut dire que Guy Ritchie réussit vachement bien son coup, parce que, bien, il est assez fidèle à la version de Sherlock Holmes qui est dans les livres.
Après, le film n'est pas exempt de défauts, bien sûr. Alors bon, le côté grand méchant qui fait un peu de magie noire, et après, est-ce qu'il fait vraiment de la magie noire avec la conspiration, bon, avec la fameuse étoile à cinq branches.
Le ouais. Pentagramme.
Voilà, bon, après, tu l'as revu 100 fois ailleurs. Tu sais grosso modo comment ça va finir. C'est un peu dommage, ça rappelle un petit peu les mauvais côtés de Vidocq aussi. Après, tu sens aussi qu'ils en gardent sous la pédale, parce que, on va dire que le grand méchant ancestral de Holmes est dévoilé à la fin du film. Tu sens que il a pas tout à fait gagné et que c'est un méchant qui est susceptible de revenir.
Eh oui.
Et donc tu vois que finalement le premier film c'était une banque d'annonces géante. Sans être complètement raté, on peut pas dire que le film soit le film de l'année non plus. C'est du divertissement de qualité tout à fait correct. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils en gardent un peu de pour pas tout mettre dans le premier film.
Ouais ouais.
Et au vu du casting, au niveau de le ton qu'ils ont réussi à trouver et tout, tu te dis il faudra aller voir la suite pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Je pense que ça va être beaucoup plus bourrin la suite et où ils iront à fond en tout cas. Donc voilà, tu vois le film le premier, c'est content de l'avoir découvert. Parce que tu te dis c'était le premier, puis on sait pas, peut-être ce sera une trilogie. En tout cas, sans le nommer, c'est vrai que ce méchant, t'as pas vu le visage, alors
il y a un certain buzz qui attribuerait carrément c'est-à-dire qu'on ne voit pas le visage de ce personnage dont tu parles, la némésis de Sherlock Holmes, mais il paraîtrait que cet acteur qui interprète donc ce personnage qu'on ne voit pas, qui n'est pas crédité dans le film d'ailleurs, dans le générique, est un acteur qui a déjà joué avec Guy Ritchie, qui a déjà participé à un film de Guy Ritchie et qui est quand même un des top acteurs bancables du moment. On n'en dira pas plus. C'est un buzz sur internet.
Ah bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui conduit des voitures noires? C'est pas lui.
Non. C'est quelqu'un qui a des problèmes de couple en ce moment, paraît-il.
Oula, c'est trop d'indices là.
Ouais, il est 13h, 1 minute et 30 secondes. Alors, on va pas encore entamer le gossip.
Alors,
hein.
Anecdote pour le film, Rachel McAdams, donc qui joue la petite amie de Holmes dans le film, au départ le rôle devait être attribué à Sienna Miller. Mais à partir du moment où Jude Law est entré dans le projet, on ne sait pas pourquoi, Sienna Miller a dit non. Voilà.
Ah bon. Mais il faut savoir aussi qu'au départ le rôle était prévu pour Russell Crowe. Avant
Watson
Sherlock Holmes,
d'accord, hein, Russell Crowe, ouais.
C'était Russell Crowe au départ, hein, de toute façon.
Et,
quoi,
et Colin Farrell avait été pressenti avant Jude Law pour Watson.
Avec Colin Farrell, justement, ouais. Quoi, les deux.
Russell Crowe, Colin Farrell, ça aurait été un peu plus burné, on va dire. Hein.
Ouais, ouais.
Mais ouais, bon, ouais. Ça l'aurait fait aussi.
Alors, moi, le reproche que je fais au film, quand même, hein, c'est la résolution de l'enquête par Sherlock Holmes, qui est un petit peu à l'identique de ce qu'on peut voir ou dans les films ou lire dans les livres d'Agatha Christie à propos d'Hercule Poirot, c'est-à-dire que on sème des indices tout au long du film et sur la fin, sur la dernière partie, d'un seul coup, Sherlock arrive et dit c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, et il explique de long en large et de travers.
Rappelez-vous
ce qui s'est passé.
Rappelez-vous cet objet dans le travelling à la minute 50, ça voulait dire c'est j'ai compris.
Voilà, c'est plus à la manière d'Hercule Poirot, hein, qu'à la manière de Sherlock Holmes, comme on a l'habitude, enfin comme les gens qui ont déjà lu les livres ont l'habitude de connaître un petit peu la façon qu'a Sherlock Holmes de résoudre ses enquêtes.
Hercule Poirot donne justement toutes ces mauvaises pistes, tous les tentatives de piège, etc. Sherlock Holmes lui donne le raisonnement froid.
Voilà, raisonnement froid, mais au fur et à mesure de l'histoire. Et il y a également, ça c'est bien rendu dans le film, hein, de toute façon, quoi, c'est la performance physique de Sherlock Holmes, qui est évidente dans pratiquement tous les bouquins. Il n'y a pas de bouquin où Sherlock Holmes reste dans son fauteuil comme ça, écoute les gens, et puis dit, c'est ceci, cela. S'il le fait, mais c'est pour... prouver à son interlocuteur ou à ses interlocuteurs qu'il a une capacité de déduction hors du commun. C'est-à-dire, bon, bah, il voit quelqu'un arriver, il dit, ah, vous êtes arrivé avec la calèche, machin, et tout, je connais le conducteur et tout, mais vous venez de tel coin de l'Angleterre et tout, quoi, à la boue que vous avez sur vos bottes et tout. Enfin bon, voilà ce genre de petits détails, hein, qui ont fait Sherlock Holmes l'as, et le roi de la science, la déduction, quoi.
Voilà ce qu'on pouvait dire du film Sherlock Holmes, qui est encore à l'affiche et qui est, ma foi, assez complet, avec un taux de remplissage de salle, enfin, c'est pas Avatar, mais...
c'est pas mal, hein, quand même.
Voilà,
hein.
Donc si vous l'avez manqué et que cette chronique vous donne envie d'aller voir le film, il est encore temps, hein, il est encore... En plus, comble de...
C'est que t'as pas eu le temps de chercher ça, là.
Non, ah non, pas du tout, puisqu'on est allé voir dimanche dernier, et signe qui ne trompe pas, il y avait la séance en VF et la séance en VO qui étaient encore les deux à l'affiche. Généralement, quant à ça, ça veut dire que ça va, ça fonctionne.
C'est bien placé, ouais.
Voilà, donc Sherlock Holmes de Guy Ritchie, à voir, évidemment, encore dans toutes les bonnes crèmeries.
13h05. Du sport, va parler de Jeux Olympiques, en commençant par la catégorie reine de la cérémonie d'ouverture, le chantage de l'hymne des JO. Sarah McLachlan, je vais y arriver, désolé Chantal, Sarah McLachlan, Ice Cream. Des fois où vous allez vous essayez de dormir la nuit parce que vous avez un supplément week-end le lendemain et qu'il n'est pas encore écrit et que vous allez le terminer à 11h15 avant de foncer au studio pour le direct à midi. Et à 3h30 du matin, vous entendez du mouvement, vous voyez la lumière de la télé qui s'allume et vous savez qu'elle va se faire l'ouverture des JO de Vancouver. Donc c'est Sarah McLachlan qu'on vient d'entendre lors d'un live qu'elle a fait qui s'appelle Mirror Ball. Donc c'est un double CD où elle était en live en 98. et qu'on va laisser tourner derrière. Et donc il faut présenter qui donc a chanté lors de cette cérémonie, donc Sarah McLachlan, et qu'elle a fait pas mal de choses pour les séries télé.
Ah ouais.
Ouais, elle est je croyais que tu avais fait la recherche, t'avais promis que tu la faisais, la chronique.
Ah non, 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 je... désolé, la semaine prochaine alors.
Ah non, il va chroniquer les JO, t'avais dit chronique de JO, t'avais pas dit chronique de Sarah McLachlan.
Si, si, non, 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 mais bon, c'est vrai.
C'est vrai qu'on c'est l'entend souvent, et cette chanson principalement, enfin, il y en a plein, on les trouve dans énormément de séries, voilà.
Ok, non, non, je parlais de télé.
Je vais me prendre un regard noir en rentrant. Si tu l'as pas tabassé.
Non, 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 tu, c'est entièrement de ma faute, hein, Xavier. C'est entièrement de ma faute.
Hein. Ouais, les gamins étaient trop turbulents.
Ouais, surtout qu'ils sont pas là.
Voyons. T'avais du retard à passer sur les chaînes X.
Alors, en télé, eh bien, on va, on commence par, eh bien, tout ce qui va être, tout ce qui va se passer à la télé cette semaine autour du film, le prochain film que je vais aller voir au cinéma dès mercredi, Shutter Island, le nouveau Martin Scorsese.
Alors, tu veux dire qu'après la rétrospective Clint Eastwood à la télé, il y aura une rétrospective Martin Scorsese?
Oh non, pas tant que ça, mais il y a des émissions spéciales, on va dire. Hein,
et puis, il y a de la bonne prod, hein, ne serait-ce que sur Paris Première, il y a des trucs qui sont pas mal. Hein.
Tout à fait, c'est surtout centré sur le personnage principal, sur l'acteur Leonardo DiCaprio, et c'est sur Paris Première, donc dès ce soir.
Je suis désolé pour ceux qui ne captent que les chaînes hertziennes, voire pire, même pas les chaînes de la TNT, mais juste TV Toulouse.
Non, 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 là, dès ce soir sur Paris Première, à 17h, 40 dans Sa Balance à Paris, cette espèce d'émission merdique parigote parisienne où des gens qui connaissent tout à tout glosent et balancent des vannes.
Et ouais, je me souviens quand je dirigeais Canal Plus et tout. Alors, ouais, qu'est-ce que tu penses de tel truc?
Non, non, mais bon, il y a juste Lescure, hein, qui est un petit peu le monsieur loyal de l'animateur principal de cette émission, qui reste Lescure, hein, je veux dire, ok, quoi. Mais alors les autres, bon, ça va. Mais par contre, là, eh bien, ça vaudra le coup parce qu'il y a une interview de Martin Scorsese par Pierre Lescure, justement, dans ce balance à Paris à 17h40 sur Paris Première. Mercredi, toujours sur Paris Première, là encore, c'est une nana qui mourit pile généralement quand elle parle de cinéma. Quoique.
Moi aussi, je croyais que j'étais le seul.
Non, 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 mais quoique, elle, au moins, quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit franco de port, c'est Elisabeth Quint.
Ouais, dans Cinéquin. Hein,
elle, au moins, elle dit c'est de la merde.
Désolé, Thomas,
c'est de la merde.
On te parle de tes concurrents, hein, désolé.
Mais là, pour ça, je la respecte, je n'aime pas tellement ses goûts de cinéma, c'est tout, mais c'est comme ça, hein, ça se discute pas. Et dans Cinéquin, eh bien, mercredi prochain, 20h15, il y aura un entretien avec Leonardo DiCaprio. Mais surtout, à 0h15, mercredi prochain, le documentaire de Martin Scorsese, un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain. Ce documentaire fait 3h45, donc,
immense.
Qui est encore déjà une version raccourcie, hein, de cette espèce de série qu'il avait produite, réalisée sur l'histoire du cinéma américain.
Il y a le cinéma italien aussi.
Ouais, ouais, mais ça c'est uniquement sur le cinéma américain. Jeudi, toujours sur Paris Première, avec du DiCaprio, deux films, 20h35 Mort ou vif de Sam Raimi, 22h25 Gangs of New York, donc qui est la première collaboration, je crois, non, la deuxième collaboration de Scorsese avec DiCaprio.
La première, alors Aviator, il l'a faite avant ou après, je sais, je crois. C'est après.
Après, ouais, ouais.
Et
je
la crois première, qu'il y en a. Bah, il y a eu des infiltrés ensuite. Non, je crois que Gangs of New York, c'est la première. Hein.
Ouais, il faudra vérifier, hein, de toute façon, quoi. Et sur 13ème rue, surtout, c'est demain soir à 20h. Alors là, bon, c'est une heure toute pourrie, quoi. Mais bon, ok, quoi. On va essayer de faire avec. Il y aura, eh bien, un documentaire très court de 25 minutes sur Dennis Lehane, donc l'auteur de Shutter Island, qui s'appelle Dennis Lehane à découvert. C'est demain, donc, à 20h sur 13ème rue. Voilà.
Alors, je confirme, Gangs of New York, c'était le premier, et ensuite il y avait Aviator.
Ok, bon. Parlons de télé à présent, avec quelques petites séries qui passent ou qui vont passer cette semaine. Rediffusion, mais ça faisait des années, hein, que c'était passé, hein, de cette excellente série britannique qui se passe à Manchester. Et d'ailleurs, tu sais que le tournage de Sherlock Holmes a été en grande partie tourné à Manchester. Il y a quelques spots qui ont été tournés à Londres, il y a même un spot qui a été tourné à New York, mais la majeure partie des scènes ont été tournées à Manchester.
Qui a été moins bombardé que Londres. Et bulldérisé.
Ouais. Donc cette série s'appelle Cracker. Cracker, c'est l'histoire d'un psychologue qui va aider la police à résoudre des crimes particulièrement sordides. Et ce psychologue est interprété là magistralement par Robbie Coltrane, qui montre là que c'est vraiment un excellent acteur. Il y a également Christophe.
C'est le gros, non?
Ouais, le gros là, celui qu'on voit dans les deux James Bond là, hein, qui dans deux, on le voit dans les deux James Bond à la suite où il joue le rôle d'un méchant, le russe là. Joue un rôle de russe quoi. Il y a également Christopher Eccleston, Adrian Dunbar, enfin bon, c'est du lourd hein, c'est une excellente série hein qui était passée à l'origine sur Canal+, donc en codé, mais dont certains épisodes avaient été repris par Canal Jimmy. Mais ça, si vous n'avez jamais vu cette série, regardez-y hein, c'est vraiment excellent, très bon hein, Robbie Coltrane là. Pff, il trouille le cul à tout le monde là. Il y a également sur TF1 jeudi prochain la nouvelle saison de Section de Recherche. Ça c'est pour toi hein, parce que bien c'est la section de recherche de gendarmerie de Bordeaux avec Xavier Deluc, un ancien, un ex des films de Max Pécasse, Xavier et Linda Hardy, ainsi que Kamel Belghazi, que moi j'ai découvert dans cette série et que je trouve que c'est un bon acteur, franchement quoi, hein, qui joue le rôle de l'assistant qui est également gendarme et qui est l'un des subordonnés de Xavier Deluc. Et dans le premier épisode de jeudi prochain qui s'appelle Le Hara, eh bien on aura la présence de Alexandra Van Der Noot.
T'es ça.
Eh ouais. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de deux séries hein, qui étaient diffusées à peu près en clair ou complètement inédites et qui valaient certainement leur pesant de cacahuètes. La première, c'est Generation Kill, dont je vous avais parlé, qui est passé donc hier soir 3 épisodes. Alors ça parle de soldats qui sont envoyés en Irak et ça raconte un petit peu l'invasion de l'Irak, mais c'est tourné de manière hyper documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas une histoire avec un début, une fin d'épisode, on suit les gars qui ont des missions à remplir et tout. Alors ça raconte l'histoire d'une section de reconnaissance, c'est-à-dire ce sont des marines mais qui ne sont pas vraiment formés pour le, si, ils sont formés pour le combat, mais leur boulot principal c'est d'aller en avant au début, de avant tous les autres, de regarder un petit peu ce qui se passe, de rendre compte, et ensuite de les c'est faire le gros de la troupe, c'est-à-dire l'artillerie, l'aviation et tout ça, c'est-à-dire pour bousiller la garde républicaine de Saddam, les bérets rouges. Et c'est tiré d'un livre de Evan Wright hein, qui est parti donc en Irak hein, c'est une histoire vraie. Et l'adaptation, elle est de David Simon et de Ed Burns, qui est également scénariste sur la série. Les épisodes sont réalisés par une femme, Susanna White, hein, tous les épisodes que j'ai pu voir hier soir, hein, les 3 premiers donc, et David Simon donc, on le présente plus, même c'est le type qui nous a pondu au départ le bouquin Homicide, Life in the Killing Street, où il a passé un an dans un commissariat de Baltimore pour suivre les enquêteurs de la brigade des homicides. Et bon, il en a tiré donc ce bouquin qui a été adapté à la télé, qui est devenu une série qui a quand même duré 11 ans hein, qui a été une des très très bonnes séries, avec un scénariste à l'époque de Homicide qui s'appelait Tom Fontana, qui après donc a créé Oz. Parce que Tom Fontana a voulu créer Oz en se disant, ok, dans Homicide on raconte comment on arrête les criminels, j'ai voulu raconter dans Oz ce qui arrive aux criminels une fois qu'ils ont été condamnés. Bon, on voit ce qui arrive dans Oz. Hein. David Simon qui nous fait également après Homicide The Corner, cette mini-série qui était excellente hein, sur les toxicomanes, sur le monde de la toxicomanie, de la petite délinquance dans Baltimore toujours, hein, qui est sa ville. Et c'est également le créateur de The Wire, sur écoute. Donc hein, rien à dire. Alors Generation Kill, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Litter Gessen joue dedans le rôle du reporter, c'est-à-dire qu'on le voit, il est fringué comme les militaires et tout. La seule différence, c'est son casque qui n'est pas clair mais qui est noir, pour bien montrer qu'il est reporter, il n'a pas d'arme et tout. Son arme, c'est son appareil photo, son stylo avec lequel il prend des notes. Mais tous les autres sont assez jeunes hein, ça reflète vraiment ce qui s'est passé dans cette invasion de l'Irak. Et comme c'est une série qui a été produite par HBO, la réalité n'est pas tellement reluisante. Ça commence dès le 3e épisode vraiment à péter un petit peu les plombs, des bavures, en veux-tu en voilà, c'est très cru. Il y a des scènes qui sont assez insoutenables quand même hein, parce que on évite pratiquement rien. hein, que ce soit le type qui essaye de descendre des soi-disant ennemis, quoi. Mais enfin bon, on ne voit jamais qui sont les ennemis, on ne sait pas s'ils sont armés. Alors selon les ordres, on tire à volonté, ou alors on se dit bon ok, il doit avoir une arme, donc je peux le descendre. Hein. Alors ça s'apparente des fois à un shoot'em up, quoi, tout simple, quoi. C'est-à-dire il y a les gars qui sont surarmés et tout, qui en phase 2, des gars qui ont peut-être un petit lance-roquette tout pourri qui date des soviétiques ou quelques petites calaches. Mais bon, ben là, les ricains de leur côté, ils sont suréquipés, Hummer, là, le gros M40 et tout qui te balance des pélos qui font 3 cm de diamètre. Enfin bon, des trucs énormes. Mais bon, ben ça n'empêche pas que c'est pas totalement la réussite. Et c'est très très bien rendu. À part Litter Gessen, qui est assez connu, il y a également Alexander Skarsgård qui est excellent, vraiment très très bon, ainsi que le reste du casting, hein, qui a été vraiment très très bien choisi. C'est vraiment une série à regarder. Generation Kill, on regrettera la version française bien entendu, quoique elle est pas si dégueulasse que ça en fin de compte, si ce n'est la voix rock du commandant, hein, qui est le patron du bataillon, et qui a une voix qui est un petit peu irritante, on va dire, à la longue, hein, mais qui est bien droit dans ses bottes, et puis qui représente vraiment bien l'idée qu'on peut se faire, hein, d'un soldat de carrière qui a des années de bouteille et tout, et qui en veut, quoi. Il est là, il fait son boulot, mais alors bon, bah, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que dalle et tout. C'est excellent, ça vaut le coup d'œil, et nettement plus que le coup d'œil. Generation Kill, donc c'est sur NT1 avec donc le 4e et le 5e épisode vendredi prochain à partir de 20h35. Si vous avez loupé les 3 premières, rassurez-vous, ils vont passer pas dans la semaine qui vient, mais la semaine d'après, ils seront rediffusés, donc je vous en reparlerai samedi prochain. L'autre série
13h20,
l'autre série qui est passée hier soir, c'est Valander. Valander dans son adaptation britannique, une première série suédoise, hein, avait été déjà créée, passée sur M6 d'ailleurs, avec donc comme héros ce détective, cet enquêteur policier suédois Kurt Valander, hein, tiré des livres de Henning Mankell. Alors là, Kenneth Branagh dans ce rôle excellent, vraiment très bon. On repère quelques seconds rôles qu'on a déjà vus dans d'autres séries, dont dans le premier épisode d'hier soir, ce sont des téléfilms, hein, format 1h30. Le tueur principal, qui est d'ailleurs le neuneu dans la série Skins, si vous connaissez cette série anglaise, et également d'autres seconds rôles qui sont des acteurs britanniques. La série a été tournée en Suède, alors ça c'est pas mal, avec pratiquement que des acteurs britanniques, mais on est vraiment en Suède et tout, et avec surtout un David Warner qui interprète le père de Kurt Wallander, qui est tout simplement excellent. Alors là, on se dit là, voilà, David Warner, il est quand même à la fin de sa carrière, hein, faut dire. Là, bon, ok, on voit qu'il est, vieux, il est fatigué, il joue son rôle de vieux papa qui est un petit peu torturé, qui commence à avoir de l'Alzheimer, qui est artiste peintre, mais bon, il y a un petit quelque chose qui le rend vraiment éminemment sympathique, ce mec-là, de toute façon, quoi. Et puis bon, lui également, il démontre que c'est un excellent acteur. Vendredi prochain, deuxième Valander, hein, ce sont 3 téléfilms, hein, donc, qui ont été tournés pour l'instant dans la version anglaise. Là, c'est le deuxième qui va passer vendredi prochain sur Arte à partir de à partir de 20h35. Et le titre de ce téléfilm, c'est La Muraille Invisible. C'est la série de la semaine, hein, de toute façon, c'est Valander, c'est vendredi prochain sur Arte à 20h35. Alors vite fait, quelques films qui ont un rapport avec ce qu'on a dit juste avant. Déjà des Sherlock Holmes, s'il y en a encore, ce soir sur Paris Première. Toujours dans la série canadienne, c'est-à-dire que Matt Frewer et Kenneth Welch, à 20h35, Sherlock Holmes, le chien de Baskerville, et à 22h05, le vampire de Whitechapel. Vite fait, ce soir, il y a également Les Diables de Ken Russell sur Ciné-Cinéma Classique à 22h55 avec Oliver Reed, Michael Gotthard et Vanessa Redgrave. Il y a également Simon Says sur Action avec Philippe Nikolic. et Dennis Rodman.
Eh ouais.
Et il y a également sur RTL9, lundi. Alors lundi, il y a Breakdown, Point de rupture de Jonathan Mostow, le mec qui avait fait le film de sous-marin, là, qui est pas mal.
U571.
Breakdown, là, c'est avec Kurt Russell, G.T. Walsh et Jack Nosworthy. Lundi, il y a également Last Action Hero de John McTiernan avec Schwartzy.
Où ça?
Sur W9, donc ce sera en version française. NT1 vous propose lundi à 22h30 Casino de Scorsese, le film où tu vois que Sharon Stone essaie quand même jouer la comédie un petit peu, hein.
Oui.
Y a pas de problème. Ou alors il y a également sur TV Braze la rediffusion pour la troisième fois de K.O. de Tony Giglio avec Ryan Phillippe, Wesley Snipes dans le rôle du méchant caricatural et Jason Statham qui crève avant la fin, donc là c'est déjà bien quoi. Quand il explosait dans la baraque et tout quoi, bon bah ouais. Ça vaut le coup. Sinon on a également Existence de Cronenberg, c'est lundi prochain sur Cinéfix à 21h. Mardi, ne loupez pas si vous l'avez jamais vu celui-là, il est excellent, hein, c'est un film d'animation sur Canal Plus Family à 20h30, Osmosis Jones des frères Farrelly, excellent, magnifique, l'histoire d'un globule blanc et d'une petite gélule qui se battent contre les méchants virus qui rentrent à l'intérieur du corps humain, mais bon c'est excellent, c'est très très bon. Il y a également Opération Eagle One mardi prochain sur TF6 à 20h40 avec Rutger Hauer et Marc Dacascos 2 pour le prix d'un. Sur TCM mardi, il y a également Le Trésor de la Sierra Madre et de John Huston avec Bogart et Walter Huston. Mercredi sur Energy 12, c'est la bouse de la semaine qui s'appelle
La bouse
à 22h15, The Terminators qui est moins 12 de Xavier Puslowski avec Jeremy London, Paul Logan et Lawrence Welch. Dans un futur lointain, des soldats d'acier luttent contre des cyborgs venus du futur. Enfin bon, c'est déjà vu, hein. Hein, vraiment déjà vu.
C'est un pitch pour AB, hein, ça.
Ouais. Sur ouais, mais je pense qu'ils vont le racheter à Energy 12. AB, hein, y a pas de problème. Ou alors ils l'ont loué. Mercredi prochain également sur Ciné Cinéma Classique. Excellent, très grand film de Fritz Lang, Chasse à l'homme. Non, c'est pas le Ringo Lam, c'est Fritz Lang en 1941 avec Walter Pigeon.
C'est John Woo, hein.
John Woo, pardon. Avec Walter Pigeon, Joan Bennett, John Carradine, donc le papa, et George Sanders. Jeudi, il y a les deux aigles de fer, les deux premiers de Sidney G. Fury. Le premier avec Jason Gedrick et Tim Thomerson et Lou Gossett. Et David Suchet. Alors que dans le deuxième, il n'y a plus que Lou Gossett. Il y a également Steven Seagal jeudi prochain sur TF6, 2 pour le prix d'un. Le premier, il est dispensable, c'est Le Protecteur de Pucci Leong avec Agnieszka Wagner. Mais par contre, le deuxième, c'est un bon Steven de la bonne époque, Le Échec est mort de Bruce Malmuth avec Kelly LeBrock, William Sadler et tout, et un Steven Seagal qui est barbu. Ah ouais.
Oh.
Ça lui fait quand,
ça lui fait une expression de plus.
Bah non, justement.
S'il vous plaît.
Vendredi sur et j'en termine avec cela, vendredi sur la chaîne Polar, la 21h, La Dame en Vert de RW Neil en 45 avec Basil Rathbone et Nigel Bruce. Vous avez compris, il s'agit de Sherlock Holmes. À 22h10, un autre Neil, La Clé de 46 avec toujours les deux mêmes. Et à 23h25, un documentaire, Les 1000 visages de Sherlock Holmes. Et c'est tout pour la semaine.
Wouh!
T'as vu, je suis pas bon là?
Ah bah non, on n'est pas dedans. Là, il est 13h26 minutes et 33 secondes.
Et voilà.
Donc t'auras quand même au moins une demi-heure pour parler de ça.
Et voilà.
Mais il y en a qui sont arrivés dans cette émission en plein direct, en plein milieu, parce qu'ils écoutent en FM ou ils nous écoutent sur le stream et pas en podcast et tout ça. Donc on va leur dire qu'ils peuvent réécouter.
Ouais,
Thomas,
mais
résumé.
Ouais, mais par contre, s'ils mettaient des piles dans la pendule, tu vois quoi, je serais moins décousu, hein, dans mon rythme, tu vois.
Mettre des piles, ça va pas. Ils vont faire une réunion pour savoir qui c'est que.
Ah ouais. Bon bah, on programmera cette réunion la semaine prochaine.
Alors, ils ont manqué, s'ils sont arrivés en cours de route, une interview d'un geek dépressif.
On a eu plusieurs plantages, mais le coupable garde la confiance du président. De la bande dessinée de super-héros pour public très très averti, un Hulk suspendu 4 mois, de la chronique enflammée d'Alan Moore, c'est donc convenu. Un as de la déduction qui pue, un mea culpa olympique, du Carpaccio de Scorsese, du Sherlock en pagaille, du Legal One, des aigles de fer, des Terminators, du Hamlet au cigare, de Steven Seagal pour le prix d'un, et du sport décousu. Mais attention, après la réunion, peut-être que ce sera plus décousu.
Nom d'une bûche de Brian Joubert. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites. Fouillez dans nos archives, jouez à des quiz stupides, laissez des commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web suppléments-weekend.fr sans accent ni tiré. suppléments-weekend.fr, c'est donc le site web de l'émission, et notamment vous y retrouverez le lien vers l'émission Roadstrip dont on a passé l'interview tout à l'heure de Davy. Un comparatif entre faut-il acheter un DVD ou le ripper, la chronique de Valérian et Laureline, Papa Tolmy, Invictus, l'épisode pilote de The Modifier, ça c'est un petit coup de cœur, c'est un projet animé de Chris Riccardi et Lyne Naylor, je sais pas si vous l'avez vu, et le Facebook de Dark Vador et toutes ces conneries, vous allez voir, c'est sur le suppléments-weekend.fr, vous allez dans nos chroniques. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance sur cette fréquence avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, j'ai pas encore décidé quoi, sinon que tout à l'heure, c'est le nouvel an chinois en défilé, donc on va faire des couillons.
Il y aura la semaine prochaine de la mama coréenne.
Ah, bah voilà, quelque chose de bien. On se retrouve la semaine prochaine, ciao, bye bye. Même heure, même fréquence, see you. Et de suite, c'est du...